Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « Les bus de la Silicon Valley ont-ils quelque chose de spécial ?» Thibaut, que l'on retrouvera en toute fin d'émission pour son complément d'enquête. Le son, ce sera Carmen, au temps de Twitter. Quant à notre invité du jour, Yevgeny Morozov, pour nous donner les éléments d'une pensée critique de l'Internet. Bonsoir Yevgeny Morozov. Nous sommes ravis de pouvoir profiter de votre passage à Paris, c'était au Collège d'études mondiales, pour vous accueillir dans Place de la Toile. On est ravis pour plusieurs raisons, d'abord parce que nous vous lisons depuis longtemps et que je suis donc content de pouvoir enfin vous entendre et pouvoir vous poser les questions que me pose votre travail. Ensuite parce que votre travail justement est singulier, il est singulier en ce qu'il est critique, très critique, sans pour autant être technophobe. On vous a d'abord connu pour des textes remettant en question le lien établi trop facilement, selon vous, entre Internet et la démocratie. Des textes qui ont abouti à un premier livre, The Net Delusion, l'illusion du net, pourrait-on dire, paru en 2011, où vous attaquez, selon vos propres termes, à la face sombre de la liberté d'Internet, une perspective que vous avez élargie dans votre second livre, To Save Everything, Click Here, donc pour tout sauver, cliquez ici, où vous dénoncez la folie de ce que vous appelez le solutionnisme technologique, mais aussi une autre notion qu'on aura, j'espère, le temps de déplier, qui est l'Internet-centrisme. Alors, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que contrairement à beaucoup de contempteurs de l'Internet, vous connaissez très bien ceux dont vous parlez, et que la cible de vos attaques, c'est moins la technologie en elle-même et ses effets que les discours qui accompagnent la technologie. Et bien souvent, d'ailleurs, les technophobes en prennent autant pour leur grade que les technophiles béats dans vos propos. Alors, pour nous qui, émission après émission, essayons de nous tenir sur cette ligne de crête très étroite pour ne pas verser d'un côté dans un enthousiasme technophile et de l'autre dans une critique facile, et votre démarche est très précieuse. Alors, pour toutes ces raisons, Yevgeny Morozov, bienvenue en Place de la Toile, et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Xavier Combes qui va assurer la traduction pendant toute cette émission. Bonjour Xavier Combes. Alors, pour commencer, Yevgeny Morozov, une question de trajectoire. Parce que bien que vous soyez jeune, vous êtes né en 1984, il me semble que vous n'avez pas toujours été aussi critique d'Internet et des nouvelles technologies que vous l'êtes aujourd'hui. Vous avez même été activiste des nouveaux médias dans les transitions démocratiques. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu un tournant intellectuel dans votre démarche? Ou pour le demander autrement, poser la question autrement, est-ce que c'est vous qui avez changé ou est-ce que c'est Internet qui a changé pendant ce temps-là, Yevgeny Morozov?
So, you know, there is a saying in the U.S. that a conservative is a liberal who has been mugged by reality.
On dit qu'un conservateur, c'est en fait un progressiste qui a vécu la réalité. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Au début, j'avais une pensée très optimiste. Cela était dû en partie au fait que je ne connaissais pas grand-chose de la réalité quand je me suis lancé. Et je pensais que les nouveaux médias, les réseaux sociaux pouvaient être des outils puissants, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est les modalités selon lesquelles ces outils sont exploités dans des infrastructures américaines particulièrement centralisées, ce qui donne lieu à de la censure, de la surveillance, et les modalités selon lesquelles ces outils peuvent être exploités par certains gouvernements. Et c'est là que j'ai travaillé et j'ai découvert que les mêmes plateformes plateformes peuvent être utilisées de manière tout à fait profitable à des fins de propagande, de surveillance et de censure par les mouvements sociaux, les activistes, les militants, les journalistes, donc à l'encontre de l'autre camp. Donc, après un certain nombre d'années de travail dans l'ancienne Union soviétique, je me suis rendu compte que je ferais mieux de faire autre chose. Par conséquent, j'ai décidé de me lancer dans une réflexion pour comprendre pourquoi tant de gens qui soutenaient ces organisations sont pleins d'aspirations, pleins d'espoir. Pourquoi on attend tant de ces technologies, de ces outils, et pour mettre à mal cette bulle idéologique? Ça, c'est donc le but de mon premier ouvrage. Et je crois que j'ai essayé d'aller un petit peu plus en profondeur dans mon deuxième livre, d'accroître un peu le périmètre intellectuel de la réflexion. Mais je dirais qu'en fait, j'ai eu de la chance parce que je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui n'apparaissent aux yeux de nombreuses personnes aujourd'hui seulement. À savoir que les modèles d'entreprise, les business models sur lesquels reposent ces plateformes prétendument d'émancipation constituent un potentiel. Et la centralisation actuelle à laquelle on assiste n'aide pas et en fait nuise aux efforts d'émancipation que l'on pourrait pourtant assigner à ces plateformes. C'est ce que de nombreuses personnes penseraient.
Mais ce qu'on a parfois du mal à comprendre, c'est que ces discours que vous dénoncez, qui servent-ils et à quoi servent-ils? Au fond, vos deux, est-ce que les deux ennemis, c'est quoi? C'est d'un côté la bureaucratie étatique et de l'autre le marché. C'est ça qui fabrique ces discours ou c'est ça les intérêts qui sont servis par ce type de discours très optimiste que vous dénoncez?
Well, I mean, there are actually, I would say that there are two discursive projects that I'm attacking. I mean, the first project I began with the first book, and that was the discourse
dans le premier
of
livre, la cyber-utopie. C'est ce à quoi je me suis attaqué, selon laquelle la technologie pourra nous libérer du mal et mettre à mal les régimes totalitaires. Donc, ça, c'était la pensée de gens qui soutiennent la démocratie. Donc, voilà ce que j'ai critiqué, ce projet de cyber-utopie. J'ai poursuivi dans cette ligne de réflexion dans le deuxième livre, où je m'en prends à certains mouvements, mais les gouvernements ouverts ou les gouvernements de données ouvertes. Il y a des gens qui revendiquent la transparence, donc je continue dans la même ligne de critique, mais je m'attaque à différents groupes ou mouvements. Mais j'ai également élargi cela vers une deuxième réflexion, la critique de l'Internet centré. Dans cette critique, j'essaye de comprendre. Il ne s'agit pas d'optimisme, il s'agit des façons dont l'on décide d'imaginer comment ces technologies doivent être interconnectées, qu'il y a un domaine tout à fait exogène que l'on appelle le cyberespace, l'Internet, le monde virtuel, et qui fonctionne selon sa propre logique. Et puis il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de respect de la vie privée parce que le domaine est ce qu'il est, vous voyez. Donc on essaye de naturaliser les évolutions qui, à mes yeux, ne sont pas naturelles du tout. Ça fait partie de business model, de décisions d'État. Ce sont des échecs de politique qui mènent à tout cela. Et je voudrais savoir pourquoi la situation actuelle et ce qu'elle est en raison de ça, parce que c'est ainsi que l'on pourrait avancer. Donc, ma critique de l'internet-centrisme n'est pas tellement liée à la critique de l'optimisme, c'est une critique des positions épistémologiques que l'on adopte par rapport à la façon dont nous devrions organiser la technologie dans un prisme comique, dans un prisme comme si tout avait une histoire commune, ou alors Alors, si on devait étudier ces technologies séparément, chacune avec ses propres origines, ses propres problématiques, et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que l'on peut voir si tout cela est interconnecté pour créer un univers qu'on appelle l'univers numérique, ou sinon, au contraire. Mais en tout, parce que, vous voyez, le point de départ est différent. On ne part pas du principe que tout est lié. C'est ça ma réflexion. Alors que certains pensent que le monde numérique existe comme ça, et puis un point, c'est tout.
Et comment faire pour que cette critique, qui par beaucoup d'aspects touche très juste, hein, dans les fonctionnements, dans les discours et dans les erreurs que font ces discours, ou ces espèces de lieux communs qui sont repris comme ça, éternellement répétés, comment faire pour que cette critique-là ne tombe pas dans le conservatisme ? Comment faire pour ne pas devenir simplement quelqu'un qui craint ce qu'est l'internet ou ce qu'il est en train de devenir.
Well, again, I think we have to be very careful here, precisely because a lot of people.
Il faut être prudent. Oppose. De nombreuses personnes.
Technologies.
Pense qu'il y a
d'une part right? and this is the key distinction that
les technologistes
auxquels
je m'oppose. Il ne s'agit pas des blogs, Skype, des réseaux sociaux, de Skype ou le partage de fichiers. C'est pas ça les ennemis. La façon dont on parle de cela en disant qu'il s'agit d'un discours unifié. Mais il y a aussi des gens qui critiquent l'économie. Ils disent c'est le marché. Donc, vous voyez, c'est cet aspect inéluctable de la forme du marché, des relations de marché. Ce n'est pas le cas. Les marchés n'existent pas en tant que tels, seuls de manière autonome. Non, on les crée, ces marchés. C'est des outils économiques et ainsi de suite, du néolibéralisme qui crée tout cela. Mais on ne peut pas penser que ça se crée tout seul, tout ça, selon une propre logique du marché. Je crois que la logique qui sous-tend ce mouvement n'est pas de nature conservatrice, mais radicale. On aurait tendance à dire que le monde, eh bien, nous le créons. Voilà. C'est ça la réalité. Donc ça, c'est le message radical de la théorie sociale pour remonter à la fin du 18e. C'est ainsi que créer... C'est ainsi que s'est créée la société. Et il faut voir cela de la même façon pour le monde numérique. Le monde numérique ne nous est pas arrivé comme ça. Nous l'avons créé avec un certain nombre de priorités en tête, avec un certain nombre d'objectifs, avec un certain nombre de desseins gouvernementaux en tête. Donc il faut être conscient des desseins des gouvernements. Il faut comprendre qu'une stratégie telle que celle qui vise à produire certains actes d'individus en les compensant par des points ou alors des divertissements n'est pas l'apanage du monde numérique parce que cela, on le retrouve aussi dans la logique technocratique qui vise l'efficacité, la recherche de l'efficacité dans le système. Et là, il faut vraiment comprendre cela comme un projet politique. Et il faut pouvoir relier cela à différentes logiques politiques qui fonctionnent dans notre société à l'heure actuelle plutôt que de réinscrire cela dans une histoire optimiste des développements technologiques et numériques en disant bon, qu'il s'agit d'une tendance naturelle et les gens auront de plus en plus de téléphones portables et lorsqu'on est sur Facebook, évidemment, on va récompenser les gens avec des points et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas un mouvement auquel je donne de la validité, moi. Conservatisme, je ne sais pas, mais on refuse de positionner toutes ces tendances dans les développements intellectuels de l'époque. Il est impossible de parler de technologie à Silicon Valley aujourd'hui sans poser les questions de néolibéralisme ou de financiarisation, toutes les grandes questions dont on débat dans des domaines que l'on ne définit pas comme étant de nature technologique. C'est pourquoi le débat a été si prégnant aujourd'hui. C'est justement parce que nous avons mis à part ce domaine de la technologie dont on prétend qu'il est distinct de tout le reste de l'économie, notamment. Et moi, j'essaye de décloisonner cela, vous voyez, parce que tout est lié. Je crois que nous devons ramener les choses dans une même sphère. Lorsque l'on parle de technologie, eh bien, la technologie, elle est poussé, non pas par des lois naturelles d'innovation ou autre, non, c'est créé de toutes pièces par l'homme.
Mais, alors, d'accord, je comprends bien votre démarche, et effectivement, c'est ce qui est très fertile dans votre démarche, c'est que vous allez voir les théories sociales d'un côté, l'histoire, et que vous intégrez ces discours sur les technologies dans un discours beaucoup plus vaste, et c'est ça qui est absolument passionnant, mais quand même, et donc, tout ça, effectivement, je comprends que ça relève d'une pensée radicale et non pas conservatrice, on peut être d'accord. En revanche, il y a des moments où je me demande si il ne se glisse pas en vous, dans votre réflexion, quelque chose un peu de l'ordre du regret, de la nostalgie, disons. Je pense à un très beau texte que vous avez publié dans le New York Times, dans mon souvenir, il y a quelques années, qui s'appelait « La mort du cyberflâneur ». Vous expliquez que l'Internet tel qu'il était aujourd'hui, c'est-à-dire Internet avec des applications où on va directement dans les lieux, on ne passe plus par le web, on ne passe plus par les moteurs de recherche. Donc, on ne se perd plus, on ne fait plus de découvertes belles comme les découvertes de la merveille. Vous compariez la flânerie dans le web aux flâneries surréalistes dans Paris, ou celles de Baudelaire même, Benjamin, les passages, etc. Et là, on trouve des éléments qui sont des éléments presque de nostalgie. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous aussi le regret, au fond, le regret de ces utopies qui n'ont pas été réalisées?
Sure. Well, it's a fair charge, but I think like if you want to talk about that particular essay,
je comprends ce que vous dites, mais s'agissant de cet article que j'ai écrit, ce n'est pas moi qui ai inventé le discours de la cyberflânerie. Dans cet article, j'explique qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats sur la nouvelle génération des cyberflâneurs qui étaient sur Internet à la fin des années 90. Ça faisait partie du discours. Les gens s'attendaient à ce que la flânerie serait florissante sur Internet. Mais ça n'a pas été le cas. Ce terme de cyberflânerie est même tombé en obsolescence. On ne l'utilise plus. Pourquoi tant de gens qui s'attendaient au florissement de la cyberflânerie sont déçus parce que ça n'a pas eu lieu? Eh bien, il y a différentes explications. En effet, notre modèle de communication est devenu plus guidé par l'efficacité. Donc, il y a les navigateurs et ainsi de suite, mais à mes yeux, c'est lié au capitalisme. Je m'explique. Moi, je ne pense pas être nostalgique. Je suis réaliste quant aux évolutions dont on parle. Et tous les projets convergent en ligne, qui est, et cet objectif, c'est l'amélioration de l'efficacité. Il faut obtenir les informations plus vite et à meilleur prix. Ce n'est pas l'objectif que nous devrions soutenir. Je crois qu'au contraire, nous devrions remettre cela en question. Je ne dis pas que nous devons lancer une campagne pour faire un mouvement un peu comme le slow food, faire le slow internet, vous voyez. Mais il faut quand même y penser. Ça a une certaine vertu, cette flânerie. C'est pas forcément une très bonne idée de s'éloigner de la croissance de la cyberéconomie. On cherche évidemment à optimiser les choses à l'heure actuelle, mais peut-être qu'on devrait s'intéresser à des questions de protection des données privées. Peut-être que l'on pourrait s'intéresser à d'autres créations de régimes dans l'espace-temps, parce qu'il y a des gens qui sont là pour mettre en place des choses à la recherche de l'argent. C'est le lucre qui guide tout ça. Donc, vous voyez, donc il faut être un petit peu militant. Il faut non pas être nostalgique, mais quand même. Moi, je suis encore disposé à imaginer une société où les impératifs de l'économie et de l'efficacité n'ont pas encore totalement coloniser tous les esprits de l'homme. Je pourrais être qualifié de nostalgique, mais je me vois davantage comme un résistant.
D'accord, Yevgeny Morozov, mais surtout quand vous dites tout ça, j'ai l'impression de me dire, mais c'est les États-Unis que vous attaquez. Vous attaquez aux États-Unis, à l'Amérique.
I have no problem. Clair. To some extent. In as much as Silicon Valley
dans la mesure où Silicon Valley représente l'épicentre de la pensée sur l'avenir de la technologie, cela est évidemment repris par toutes les startups dans le monde. J'attaque les États-Unis, mais j'attaque cette vue globaliste de la technologie comme étant quelque chose qui va promouvoir l'efficacité et la vitesse. Mais les États-Unis constituent évidemment le centre de cette pensée. Mais les startups en Malaisie qui copient ce qui se passe aux États-Unis, du point de vue des idées, mais aussi des événements, la façon dont ils travaillent avec le capital risque, et ainsi de suite. Ça va au-delà de l'argent. C'est toute l'infrastructure, l'organisation de systèmes de piraterie, toute l'infrastructure qui vise à promouvoir la technologie. Évidemment, le point de départ, c'est les États-Unis, mais c'est repris avec les mêmes méthodologies ailleurs. Tout le monde veut mettre en place des lean startups, des startups qui fonctionnent au plus juste. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, personnellement, mais ce que j'attaque, c'est la mentalité américaine, où qu'elle se trouve. Parce que cette mentalité américaine, ça devient la mentalité mondiale. Et c'est une forme de pensée, et je crois qu'il faut la combattre, et j'espère pouvoir y contribuer sur le plan intellectuel.
Oui, donc pardon, ce n'est pas effectivement l'Amérique que vous essayez de combattre, c'est le capitalisme néolibéral mondialisé, c'est donc le monde entier. Je me demandais comment vous êtes reçu dans la Silicon Valley, parce que vous êtes, bon, non seulement là, vos propos sont effectivement assez radicaux de manière générale, mais ensuite dans vos livres, dans vos textes, vous avez vraiment des attaques qui sont assez féroces et assez drôles aussi contre tous ces grands penseurs conférenciers. Alors on les connaît ici très bien, c'est Clay Shirky, Cory Doctorow, Kevin Kelly, etc. Et je participe régulièrement à les traduire d'ailleurs parce que c'est intéressant de voir ce qu'ils disent. Mais vous les attaquez de manière très très cruelle, alors que c'est eux qui règnent dans le discours sur les technologies aux États-Unis. Comment vous êtes reçu? On accepte de discuter avec vous ou on vous considère comme une sorte de truc bizarre, biélorusso, crypto, anarcho, gaucho, je sais pas quoi, et on discute pas avec vous, Yevgeny Morozov.
Well, I mean, look, again, as I tried to explain to you earlier, I think there is a certain intellectual effort to present technology as a field that ought to be separate from technology and economics. The topic is in its own very nice, congenial discourse.
Discours bien pensant qui nous est imposé. Il n'y a pas d'histoire de penseurs dans ce domaine
book reviews of each other's work,
ou qui critiquent même leur propre travail. Ce qui est impensable dans tout autre domaine, la politique, l'histoire de l'art, l'étude du cinéma, eh bien, il y a des gens qui se lancent dans des débats, qui se critiquent les uns les autres, qui mettent en place des groupes de réflexion, qui mettent en place des différences idéologiques. Ça n'existe pas, ça, dans le domaine de la technologie. Ils ont tous besoin d'eux-mêmes pour que le discours puisse être soutenu. Nicolas Carr a besoin de Shirky pour que le débat puisse continuer. Pour savoir si les e-books vont nous permettre de lire Guerre et Paix dans 10 ans. Mais ce n'est pas le débat qui m'intéresse, moi. Ce débat sur est-ce que les ordinateurs sont en train de nous rendre imbéciles? Non, ce n'est pas ce débat-là que je veux non plus. Moi, je veux parler d'argent. Voilà. Le rôle de l'argent dans tout ça. Et par conséquent, je n'ai d'autre possibilité que d'être féroce dans mes attaques parce que je veux que les gens fassent valoir des arguments à l'aune de critères qui m'intéressent. Moi. Donc je ne veux pas les mettre dans une situation confortable. Il faut qu'ils soient conscients que l'époque où l'on peut mettre des arguments imbéciles dans des livres est révolue, sous prétexte. On ne peut pas simplement mettre des arguments en disant que c'est parce que c'est de la technologie et c'est bien. Non, on ne peut pas dire ça. Mais du coup, étant cruel dans mes critiques envers ces gens-là, j'accepte les critiques cruelles envers mes travaux à moi, parce que je suis l'ami du débat. C'est ça le problème du discours que j'attaque. Les gens sont bien pensants et ainsi de suite. Ils sont trop gentils. Ça m'énerve parce que Silicon Valley, ce n'est pas le pays des bisounours. Vous voyez, quand même, il faut quand même y aller. Il faut discuter de sujets plus intéressants que ceux qui nous veulent bien nous livrer comme des miettes. C'est comme si tout le monde était dans ce groupe de pensée, tout le monde a la même pensée, et ça ne va pas du tout. Donc, il faut essayer de trouver les moyens, les chemins pour critiquer ces gens-là en étant moins dépendant des sources de pouvoir que ces gens-là soutiennent. Alors, il faut refuser l'argent d'entreprise, il faut refuser d'être payé pour intervenir dans des manifestations, des colloques et ainsi de suite. Une fois qu'on est indépendant des sources de pouvoir, eh bien, on peut parler de manière libre, en homme libre. C'est ce que je recherche à faire.
Eh bien, Yevgeny Morozov, vous faites une transition parfaite puisque Thibault s'est plongé dans son ordinateur cette semaine pour répondre à la question « Les bus de la Silicon Valley ont-ils quelque chose de spécial ?»
Power on. la Silicon Valley ont-ils quelque chose de spécial ? Eh bien oui, ils sont devenus le point de fixation de la lutte des classes, du moins d'une certaine caractérisation contemporaine de la lutte des classes. Ces bus ou navettes transportent les travailleurs des grandes entreprises technologiques, Google, Apple, Facebook, eBay, du moins celles qui ont leur siège dans cette région, la Silicon Valley ou la Bay Area, région parmi les plus riches du monde, celle où, donc, où s'élabore le code qui gouverne une bonne partie de l'humanité et où s'entassent les profits des plateformes qui nous interfacent les uns les autres. Ces navettes, qui disposent du Wi-Fi et de sièges en cuir, et qui étaient déjà 32 pour 1200 employés rien que pour Google en 2007, je lis ça sur le site du New York Times, ces navettes donc sont donc devenues les cibles d'attaque. Bon, rien de bien méchant, à peine un peu de verre brisé, par des militants critiques des technologies qui reprochent à ces entreprises de renforcer la gentrification des centres urbains, centres dont sont refoulés ceux qui ne peuvent suivre l'augmentation constante des prix des loyers au profit justement de ces travailleurs des nouvelles techno plutôt bien payés. Même s'il y a aussi des travailleurs pauvres dans ces entreprises, mais les ingénieurs et les développeurs, eux, se disputent à prix d'or. Certains de ces employés ont été interrogés récemment et beaucoup ont reconnu que s'ils devaient faire eux-mêmes en voiture ou en transport en commun le trajet jusqu'à leur lieu de travail plus au sud de la région, ils n'habiteraient pas au nord, à Berkeley ou à San Francisco. Ce faisant, ils ont donné raison à ces activistes bloqueurs de bus dont une faction se nomme Counterforce, la contre-force, la force antagoniste, et qui mêle à la critique des inégalités et de leur dimension spatiale territoriale d'autres critiques, de la surveillance globale notamment. Deux informations, en fin de semaine, sont venues renforcer le sentiment d'imminence de la lutte des classes dans la Silicon Valley. Et dans le camp d'en face, certains entrepreneurs de la Silicon Valley évoquent l'idée de faire sécession d'avec le reste de la Californie, voire des États-Unis, pour transformer la région en une sorte de paradis anarcho-capitaliste. Cette lutte des classes, figurez-vous, a même sa bande-son. Première information en fin de semaine, le comité des transports municipaux de San Francisco s'est emparé du problème devant une centaine de personnes. Il a fini par proposer de faire payer à ces navettes qui empruntent les arrêts publics $1 à chaque fois qu'elles y font monter ou descendre leurs passagers. Plus symbolique qu'autre chose. Moins symbolique par contre, la deuxième information, la nouvelle action de la contre-force, qui a carrément exposé un des ingénieurs de Google qui sortait de chez lui avec des Google Glass sur le nez, son bébé dans les bras et un iPad dans la main gauche, en distribuant des tracts avec son nom et ce message. Anthony Lewandowski, c'est son nom donc, est en train de construire un monde inique, un monde de surveillance, de contrôle et d'automatisation. Il est aussi votre voisin. Les cris d'orfraie n'ont pas tardé, critiquant la méthode digne des militants anti-contraception, critiquant le tour personnel pris par cet activisme, etc. La méthode est peut-être à affiner, mais ces actions ont en tout cas le mérite d'illustrer l'intrication des flux physiques et numériques, individuels et collectifs, et de concrétiser une ligne de front dans cette bataille qui s'annonce de notre humanité connectée.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Merci Thibaut, on vous retrouve en fin d'émission pour votre complément d'enquête et pour vous, Yevgeny Morozov, un condensé de culture francophone. C'est la nouvelle star de la chanson en langue française de Belge Stromae qui reprend ici un des thèmes les plus célèbres du Carmen, évidemment, pour faire une critique de l'amour en analogie avec Twitter. C'est Carmen de Stromae.
Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques où nous avons le plaisir ce soir de recevoir Yevgeny Morozov, donc un des penseurs critiques les plus intéressants sur la place mondiale critique du numérique. Et il était accompagné de Xavier Combes qui nous aide à la traduction, enfin qui l'a fait d'ailleurs tout simplement la traduction. Alors Yevgeny Morozov, je voulais soulever un aspect qui pourrait paraître anecdotique dans votre travail, mais qui ne l'est pas complètement, et la chronique de Thibaut m'y faisait penser, c'est l'humour. C'est que vos textes sont souvent assez drôles parce qu'ils sont cruels, et comme s'il y avait quelque chose qui non seulement vous énervait, ça on l'a compris pendant toute la première partie de l'émission, dans ces discours-là, ces gens-là, la Silicon Valley, mais aussi quelque chose qui vous amuse. Ces gens vous amusent, ils sont ridicules, un peu, selon vous, non?
Well, again, I think there is something wrong with how serious many people in this field take themselves.
Ces gens-là se prennent tant au sérieux. And the inability
to feel sarcastic and cynical about themselves.
Ils sont incapables d'ironie, de sarcasme,
it's the first sign
d'autodérision.
They're probably fake.
Donc, ces gens-là sont fous.
The way in which many of the people in this field who I'm criticizing,
donc,
how they get really,
les gens que je critique dans ce domaine,
irritated by,
sont bien souvent
jokes
agacés
by,
par les petites blagues à leur encontre, même les petites choses anodines.
Et
ça, ça montre que s'ils sont vexés comme ça, c'est qu'ils ne se sentent pas bien. Regardons un petit peu les éléments de langage que l'on utilise dans ce domaine. Eh bien, vous avez tous ces termes. Disruption, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'openness, l'ouverture, les ruptures, et ainsi de suite. Ce sont des mots creux, ou alors ce sont des mots qui sont polysémiques, ils changent de sens selon le jour, ou alors l'économie partagée. Voilà un terme particulièrement ridicule. Il faut être critique du vocabulaire même qui nous est imposé par la Silicon Valley, parce que bien souvent, ces termes ont été adoptés par des gens dans d'autres domaines, par des responsables politiques, des théoriciens, et ça s'applique à des sujets sérieux, sans comprendre le peu de profondeur de ces termes. Aujourd'hui, on parle de politique en open source. Vous allez me dire ce que ça veut dire, ça? J'ai aucune idée, moi. Il n'y a pas plus creux. Par conséquent, il faut être très attentif. Il ne faut pas adopter ces mots et les laisser galvauder et contaminer le reste du langage dans les domaines sérieux. Le gouvernement est une plateforme. C'est de vous dire quoi, ça? Mais on utilise ça comme s'il n'y avait pas du tout de différence entre un gouvernement et un App Store. Vous voyez, il y a une différence quand même.
Donc, si on veut une analyse
profonde et sérieuse, je crois que tout ce discours de Silicon Valley vise à niveler les différences entre les différents domaines, la politique, la culture, et ainsi de suite, et donner ce vocabulaire qui montre bien les priorités qui sont l'innovation et l'efficacité qui sont l'apanage de la technologie. Et tant que les autres domaines auront les mêmes objectifs et le même vocabulaire, et bien Silicon Valley pourra évidemment être la clé de sa propre survie. Donc, cette recherche de l'efficacité, c'est quand même ce qui prédomine. Et Google sera fondamental au cœur de tout cela. Et il faut trouver les autres critères. Peut-être ce qu'il y a de plus précieux dans notre démocratie, ce n'est pas la possibilité d'automatiser, c'est peut-être le fait qu'il y a des instants où il y a des problèmes de communication et que les gens, eh bien, c'est sidérant, parlent entre eux et ils arrivent à prendre des décisions quand aux choses importantes et puis discutent dans la sphère publique plutôt que d'automatiser un processus avec des capteurs, du big data pour que les gens n'aient pas leur mot à dire. Il y a pas mal de gens à Silicon Valley qui essayent de laisser les gens à l'écart du débat parce qu'ils font cela au nom de l'efficacité et ainsi de suite. Donc du point de vue de la théorie démocratique, ça ne va pas. Peut-être qu'il faut de l'opacité et de la communication parce que l'opacité nous permet d'articuler, d'argumenter nos propres positions. Et tout cela, c'est bien, parce que c'est propice au débat. Ça nous amène à réfléchir sur notre projet commun de société. Ce n'est pas le paradigme des gens qui organisent les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça qu'ils apportent lorsqu'ils nous obligent à penser à l'avenir de la politique à l'aune de leurs critères. Dans mon deuxième ouvrage, j'essaye de décrire la différence qu'il existe entre cette pensée technocentrique et une pensée plus complexe qui permet l'ambivalence, l'opacité, peut-être l'hypocrisie, peut-être un peu de bruit ambiant, et on pourrait associer cela à la façon dont on pense aux institutions démocratiques et aux débats démocratiques.
Alors, prenons un exemple sur cette question, et par exemple, tout le débat qui a eu lieu suite à l'affaire Snowden, qui est encore en cours. Vous êtes intervenu en écrivant un texte très intéressant dans la Technological Review du MIT. Vous parliez de la question de la propriété, de la préservation de la vie privée et de la démocratie, où vous défendiez une thèse qu'il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu, parce que j'ai trouvé à la fois très intéressante, mais je ne pense pas l'avoir comprise totalement, qui est l'idée de dire, bon, au fond, il ne faut pas s'arc-bouter, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la question de la vie privée. Voilà. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut défendre complètement, mais il faut plus largement s'ouvrir à la question de la démocratie et de l'interaction entre démocratie et vie privée. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu ça, parce que ça paraît très contre-intuitif par rapport à ce qu'on a comme discours immédiat face à l'affaire Snowden. Première chose, et puis vous en appelez à la fin de votre texte, vous dites, voilà, il y a quelques solutions imaginables, et vous parlez, par exemple, vous parlez de il faut politiser les applications, il faut politiser... Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Parce que ça permet d'aller vers un deuxième versant de votre travail, qui est que vous avez un travail critique, mais il y a aussi des propositions. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter simplement de dire qu'il faut complexifier le discours, etc. Il faut aussi proposer des choses. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous ce rapport vie privée et démocratie, et aussi les solutions que vous voyez, quel travail il faut faire, où il faut aller pour complexifier ce rapport-là. Sure. Yevgeny Morozov.
One of the proposals currently on the table,
l'une des propositions que l'on fait face pour la résolution de la question de la protection des données privées consiste à bâtir des outils qui nous permettraient de protéger nos propres données tout en tourner cela en actif. Autrement dit, vous avez les informations personnelles, les informations génomiques, les informations de géolocalisation, tout ça, c'est une chose. Et plutôt que de laisser Facebook et Google exploiter cela sans vous payer quoi que ce soit, évidemment, eh bien, on peut tourner cela en un actif productif. Vous dites, voilà mon portefeuille de données. Eh bien, ça va me faire gagner de l'argent. Il y a de plus en plus de startups qui sont disposés à vous proposer cela comme service. Vous pouvez tout mettre sur un serveur, vous avez un modèle de transaction, il y a d'autres sociétés qui payent pour avoir accès aux données que vous avez fournies à la start-up. Et il y a pas mal de gens, Jeremy et d'autres critiques présentent cela comme étant une solution possible en créant un régime de propriété des données. Et ça nous permettrait de résoudre le problème de la protection des données. Mais ces efforts ne vont pas dans le bon sens, à mon avis. En effet, ce n'est pas simplement l'augmentation de l'autonomie des citoyens grâce à la maîtrise de leurs propres informations qui est en jeu. Parce que si vous donnez à la population la possibilité de maîtriser ses propres données, il y aura la question éthique de la gestion des données dans une démocratie. Il y aura des gens qui, soit ne vont pas s'intéresser aux données ou qui vont simplement vendre des données à des sociétés privées et ainsi de suite. Mais moi, j'ai un autre point de vue. Je ne pars pas du citoyen comme étant le locus de l'analyse. Moi, je pars de l'État. L'État, la démocratie. Et j'essaye de comprendre ce qui pourrait advenir si les institutions démocratiques ont trop de données à leur disposition sans avoir de maîtrise démocratique solide quant à la façon dont elles exercent leur pouvoir pour rassembler autant de données. Et moi, ce que je crains, c'est que lorsqu'on a tant de données et qu'on n'a pas l'ambition de faire quelque chose d'important sur le plan structurel, eh bien, ils vont optimiser le système plutôt que de le réformer. Donc, on retrouve cela dans la façon dont l'Amérique essaye de combattre le terrorisme au Yémen, par exemple. Grâce à la NSA, on peut collecter des signaux sur tous les jeunes du Yémen, par exemple, où est-ce qu'ils ont déménagé, quels films est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils écrivent sur les blogs, etc. Et on les met dans des catégories et on fait une sorte de cartographie de risque par rapport aux risques qu'ils posent sur les aéronefs américains. Voyez, on fait une espèce de hiérarchisation. Quels sont les grands risques dans ce groupe de jeunes yéménites par rapport aux aéronefs américains? Eh bien, ces gamins-là, on va leur dire que vous allez pas dans, qui ne vont pas dans les avions. D'accord. Ce n'est pas une bonne solution au problème du terrorisme. En partie, ça ne remet pas en question le principe de base qui consiste à comprendre pourquoi les jeunes yéménites veulent faire exploser les avions américains. Ça, c'est la question qu'il faudrait poser. Si on tente d'y répondre, on va peut-être arriver à la réponse qu'ils veulent le faire parce que les États-Unis utilisent des drones pour désinguer tout ce qu'il y a au Yémen. Et cela pourrait engendrer un changement structurel quant à la pensée de la population américaine sur la politique étrangère. Mais vous voyez, c'est un petit peu subversif, mon approche. Eux, en réalité, c'est le déploiement des données pour rendre la politique actuelle plus efficace. Si on prend cette pensée pour l'appliquer dans un périmètre structurel plus important de l'ensemble de la société, on comprend qu'à mesure que l'on donne de plus en plus de données à nos gouvernements, aux États, au bout d'un moment, ça ne va plus les intéresser à ouvrir ce grand débat politique. Pourquoi ? Quel serait leur intérêt en optimisant le système, en utilisant les données, en déléguant les décisions aux citoyens eux-mêmes ? Le problème comme l'obésité, par exemple. Comment est-ce que le gouvernement est en train de combattre l'obésité ? Plutôt que parler du lobby agroalimentaire ou du manque d'infrastructure pour l'exercice physique, qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis ? Eh bien, on permet à Silicon Valley de créer des applications permettant aux citoyens de suivre sur leur ordiphone à quel point ils sont en train de grossir. Comme si le problème de l'obésité n'était que le problème des individus, rien à voir avec l'agroalimentaire ou le manque d'infrastructures pour faire de l'exercice. C'est ça que je veux combattre. Vous voyez ? Donc, revenons à la question des outils. Pour toujours répondre à votre question, je ne perds pas de vue votre question. Pour des outils, je voudrais que les citoyens soient plus politisés quant au rôle que jouent les données dans la vie démocratique. Et je voudrais qu'ils pensent au rôle que pourrait jouer leur propre participation sur le marché des données et comment cela pourrait avoir une incidence positive sur la démocratie. Et l'exemple que je donne habituellement, c'est celui de l'énergie. Comment est-ce qu'on utilise l'énergie ? Eh bien, ce n'est pas simplement une situation où nous, on doit pouvoir payer les factures. On éteint les lumières, non pas parce qu'on craint le coût, bien que ça joue un rôle, mais c'est parce qu'il y a un autre registre éthique qui tourne dans notre esprit et qui nous dit que si on laisse les lumières allumées, c'est immoral étant donné qu'il y a un problème de changement climatique. Donc la question est la suivante. Quel est l'équivalent démocratique du changement climatique s'agissant de données ? Quand on a la réponse, eh bien, on peut décliner une logique différente que l'on intègre dans les outils qui vont fonctionner de manière différente. Des outils qui ne vont pas simplement viser la communication efficace. Des outils qui vont vous exposer aux conséquences potentielles démocratique de votre décision à mettre votre génome sur Internet. Si vous faites ça, il y aura plus de discrimination ethnique ou autre. Donc peut-être que vous aurez intérêt à savoir qu'il y a des conséquences importante et cela devrait guider vos décisions de maîtrise de vos données. C'est à ce niveau-là que je voudrais que l'on débatte politiquement et éthiquement et qu'on ne parle pas simplement d'un marché. Est-ce que je vais partager mes données, oui ou non, selon le fric que ça va m'apporter ? Non, ce n'est pas ça qui est intéressant.
Question qui appelle une réponse très courte parce qu'il faudra donner la parole à Thibault. Vous ne pensez pas que ce combat, il est un peu perdu ?
Non.
Pourquoi une bataille perdue ? Pas du tout.
I mean, Again, depending on how pessimistic you want to sound.
Ça dépend du pessimisme que l'on veut faire passer. On peut dire que le changement climatique, c'est une bataille perdue aussi, hein, il y en a d'autres. Mais si l'on regarde la réussite intellectuelle partielle de certains mouvements sociaux au cours des dernières décennies, ils ont mis en place une logique différente. Le fair trade, le commerce équitable, par exemple. Pourquoi est-ce que les gens vont aller payer 2 euros de plus pour du café? D'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. Mais les gens le font parce qu'ils pensent que dans le commerce équitable, il y a une logique intéressante qui sous-tend leurs pensées et leurs actions. Et donc, il faut se lancer à créer une nouvelle logique pour envisager les données. Mais voilà, et ça nécessite un mouvement social.
Evgeny Morozov, moi je suis d'accord avec vous, mais je veux que vous le disiez vous-même, c'est ça, que vous l'entendre dire. Tout de suite, Thibault pour son complément d'enquête.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Oh, c'est pas que ce soit très important.
Evgeny Morozov, avec ce rappel constant à l'infrastructure, êtes-vous un marxiste?
Who says that?
Yourself.
No, I'm asking you.
Yes.
Ok, thank you. Je voulais savoir également si vous arrivez d'élaborer des fictions positives. Parce que c'est parce qu'on ne vous lit pas trop là-dessus, mais est-ce que ça vous arrive? Des utopies positives.
J'ai presque
écrit un essai l'année dernière où je renonçais à ma critique de la cyber-utopie parce que ce terme n'est plus utile.
Ça ne met pas le doigt sur ce que je veux dire.
Si l'on n'a pas des aspirations utopiques, on n'est pas capable de mettre en place une vision technologique et ou économique pour mettre en place de nouvelles logiques. Au cours des dernières années, mes travaux portent sur les aspects politiques, comment mettre en place une infrastructure différente pour avoir des modèles plus décentralisés, pour savoir s'il faut vraiment s'intéresser à l'efficacité dans la conception de nos modèles. Donc ça, c'est une partie de mes travaux. Mais je me suis rendu compte que ces problématiques sont très difficiles à faire valoir sur le plan politique et intellectuel, parce qu'il y a ce discours qui nous mine. Donc, dans mes recherches, je travaille également sur l'historicisation, donner une contextualisation au vocabulaire que l'on utilise, y compris des termes comme cyberespace ou l'Internet, pour parler de problèmes qui, vus différemment, pourraient donner lieu à une logique différente. Pourquoi parle-t-on de cyberespace et pas d'infrastructure? Cette tendance à dépolitiser les questions est dangereuse à mesure que l'on adopte le vocabulaire de l'Internet, parce qu'on s'éloigne de l'infrastructure, et donc l'historicisation et la politisation des choses me paraît tout à fait intéressant.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre safe? Non pas parce que c'est une anecdote de biographique intéressante, il va expliquer une caisse dans laquelle il met sa clé Wi-Fi, son téléphone intelligent, etc. pour travailler.
Ok, shortly please.
Sure. As a writer, I just need to get a lot
J'écris.
Of writing done.
Donc,
so
il faut que je mette les mots les uns derrière les autres.
Often been that I just problème, get really easily.
C'est que
so
il faut que je fasse ça de manière
about how I can create
efficace.
An ideal, perfect
comment créer une infrastructure idéale pour écrire. Je me suis rendu compte que le niveau de maîtrise que j'ai dans mes outils ne suffit pas. Je veux un niveau supérieur.
Et
pour moi, la solution, c'est d'avoir un petit coffre-fort avec une petite horloge. Comme ça, je sais quand la porte est ouverte et fermée. Donc, j'ai retiré la carte Wi-Fi de mon ordinateur portable. Je l'ai remplacée par une carte d'une clé USB. Comme ça, je peux utiliser mon ordinateur portable. Je cache le câble du routeur. J'ai un téléphone imbécile et pas intelligent. Et je peux fonctionner comme ça. Et je peux lire beaucoup, je peux écrire beaucoup. Et ce, sans être parasité par la connectivité omniprésente.
Le combat de l'archive contre le temps réel.
Oui, moi je me disais que Yevgeny Morozov était décidément radical en tout, même en termes de déconnexion. Merci beaucoup Yevgeny Morozov d'être passé par notre studio. J'espère que la prochaine fois que vous viendrez à Paris, vous repasserez nous voir, parce qu'on a encore beaucoup de choses sur lesquelles on aimerait vous entendre. Toutes vos références, en tout cas, sont sur la page de Place de la Toile, où vous pouvez aussi réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an. Merci donc et bonne fin de séjour à Paris. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce qu'on fera, hein, mais on verra bien, puis ce sera bien. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte. Nous remercions Xavier Combes pour la traduction aujourd'hui. À la technique, c'était Alexandre Billard, réalisation Viviane Noël. Il est 19h, vous écoutez France Culture. Tout de suite, Elisabeth Tchungi sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.